Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Reconnecter un marais littoral à la mer, c'est une opération qui vise à redonner à un milieu son fonctionnement naturel et à le rendre plus résistant, notamment face au changement climatique. Avant d'en parler dans quelques minutes avec Sébastien Gallet, enseignant-chercheur en ingénierie écologique à l'Université de Bretagne occidentale à Brest, direction le loch de Guidel dans le Morbihan. Cette réserve naturelle régionale, séparée de la mer par une dune côtière, fait l'objet d'un projet de reconnexion à la mer. Pourquoi, comment et avec quelles conséquences? Sabine Croix de Radio Balise, votre radio associative dans le pays de Lorient, Quimperlé et Auray, s'est rendue sur place pour en savoir plus.
Alors là, l'oiseau qui vient de se déplacer là, au-dessus du canal et qui s'est posé dans la bordure de roselière, c'est le phragmite des joncs. Donc lui, c'est un individu que je vois à chaque fois que je passe ici, que je fais mes relevés. Et que je vois même chaque année. Alors est-ce que c'est le même, je ne sais pas, mais c'est le phragmite des joncs. Donc c'est une espèce qui est très très courante ici sur le loch, qui est même l'espèce de passereau dont le nombre de couples est le plus élevé sur la réserve. Et c'est une espèce voilà qui va vivre sur les inféodé on va dire aux zones humides et qui va se reproduire dans les milieux de roseaux comme ça, de cirpés, des milieux de mégaphorbiers. Des milieux comme ce qu'on voit là. Alors moi je m'appelle Romain Bazir, je travaille pour la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan et on est aujourd'hui sur la réserve naturelle régionale des étangs du Petit et du Grand Loch à Guidel.
Et votre rôle ici?
Alors mon rôle en tant que chargé de mission donc c'est de mettre en place et d'assurer la mise en œuvre de suivi scientifique pour mesurer les évolutions du milieu, tant d'un point de vue biologique, écologique, que aussi d'un point de vue physique et même sociétaux, en lien avec les évolutions à venir de la réserve.
Et tout ça, ça nous montre qu'ici, il y a une certaine biodiversité qui avait été reconnue puisque le site est espace naturel sensible.
Alors effectivement, le site est espace naturel sensible. Le conseil départemental du Morbihan a acheté une partie du site en 1994. Mais effectivement, c'est un espace naturel sensible au titre de la politique du conseil départemental. Mais aussi, c'est un site qui est classé réserve naturelle régionale. Depuis 2008, donc là c'est la politique du conseil régional. Et c'est aussi un site qui fait partie du site Natura 2000, donc un site qui est beaucoup plus large que le périmètre de la réserve, qui englobe les rives de la rivière de la Laïta, tout le littoral Guidel, Plomeur, jusqu'à la pointe du Talus, là au sud du littoral de Guidel.
Et si je suis là aujourd'hui, c'est notamment pour parler de quelque chose qui a déjà été repoussé, parce que j'ai lu que ça aurait dû être mis en place au départ en 2017. Finalement, il y a eu un délai de 5 ans qui a été accordé, parce que justement, ça a été une décision difficile à prendre. C'est l'idée de réouvrir cet espace-là à la mer.
Alors effectivement, si on fait un très gros raccourci, c'est réouvrir cet espace-là à la mer, mais c'est pas tout à fait ça, c'est avant tout la reconnexion de la Saudraie, qui est le fleuve côtier effectivement qui passe dans le loch et qui se jette en mer. C'est reconnecter la Saudraie à la mer. Dans la fin des années 1800, il y a eu une politique d'assèchement du loch pour pouvoir le cultiver. Et donc il y a eu des digues un ouvrage à la mer avec des clapets anti-marée qui ont été installés à l'intérieur, qui empêchent la mer de rentrer.
Et
Et donc en 2010, dans les années 2010, il y a l'application de la directive cadre sur l'eau qui vient s'appliquer en France via la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, là, qui impose en fait aux propriétaires des ouvrages, que ce soit des ouvrages à la mer ou des ouvrages aussi présents dans les rivières, les ouvrages qui contraignent la continuité écologique. Donc la loi impose à ces propriétaires d'aménager les ouvrages pour restaurer les continuités écologiques. Donc sont visés par là en fait les poissons migrateurs et les sédiments.
Mais ça aujourd'hui, est-ce qu'on sait quelles conséquences ça peut avoir ?
Alors, exactement sur le Loc, on ne sait pas quelles conséquences ça va avoir. Néanmoins, on sait que restaurer des milieux à la mer ou aux influences salées, en fait, restaure des habitats estuariens qui sont menacés en Bretagne, qui se réduisent aussi en Bretagne, etc. Et on sait très bien la richesse des habitats estuariens pour tout un tas d'espèces, du phytoplancton, du zooplancton, jusqu'aux oiseaux ou jusqu'aux petits poissons côtiers comme le bar ou les mulets.
Avant de venir, je regardais sur une carte la Sauderay, je regardais jusqu'où elle allait parce que je ne me rendais pas bien compte s'il s'agissait vraiment d'une grande rivière ou pas. Et en fait, elle serpente un peu derrière Guidel et elle s'arrête, elle prend sa source plutôt, mais vers l'Anbiwé. Donc c'est quand même un tout petit cours d'eau.
Alors c'est un tout petit cours d'eau, c'est vrai. Je crois que c'est 2500 hectares de bassin versant, donc c'est assez réduit. En Bretagne, on a beaucoup de petits côtiers, ce qu'on appelle les fleuves côtiers, donc les petits côtiers. Donc si on les oublie en Bretagne et qu'on se concentre que sur les grands comme la Loire ou même la Laïta, c'est porté, je pense, grandement préjudice aux petits côtiers. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon nombre d'espèces, donc les petits alevins, je parlais du bar et des mulets tout à l'heure, les petits alevins de ces espèces-là vont se servir de marais rétro-littoraux connectés à la mer pour grossir, pour survivre, et ensuite, une fois adultes, ils vont repartir en mer et pour se reproduire.
Mais forcément, vous entendez sans doute les voix, beaucoup de gens s'inquiètent parce que cet espace qui a été complètement créé par la main de l'homme, c'est vraiment une question d'artificialisation qui a eu lieu un petit peu avant 1900, a permis aussi une biodiversité qui est assez rare en Bretagne. Et les gens s'inquiètent, est-ce que certes rétablir une estuarisation de la Sauderay, ça a une vertu de continuité écologique, mais est-ce que d'un côté, c'est pas aussi dommage de perdre cette biodiversité qui s'est installée ici tranquillement au fil des années ?
Ah bah si, c'est sûr, hein. Ça peut être vu comme ça, et c'est tout à fait légitime de le penser, notamment quand on sait tout le travail qui a été fait, notamment par la fédération départementale depuis son action de gestion dans le début des années 90. Mais néanmoins, je pense qu'il faut prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à l'évolution des choses et à l'évolution de la biodiversité aujourd'hui, à une échelle un petit peu plus large. On sait aujourd'hui que nos milieux littoraux sont menacés. Mais effectivement, on peut voir les choses comme ça. Il y a des espèces qui vont disparaître, d'autres qui vont réapparaître. Mais moi, je mets un peu plus l'accent sur la fonctionnalité du milieu et la remise en place en fait d'un fonctionnement un petit peu plus naturel avec des espèces plus adaptées et pour lesquelles on a moins, on va dire, à faire de gestion derrière. Et sur le long terme, je pense l'ensemble de cet écosystème sera un peu plus résilient en termes de restauration et en termes de survie en cas de on parle de changement climatique, on parle des hivers de plus en plus contraignants pour les espaces littoraux. Restaurer des milieux comme ça les renforce en termes de résilience, quoi.
Voilà pour ce reportage sur le projet de remaritimisation du Loc de Guidel dans le Morbihan. Un reportage signé Sabine Cros de Radio Balise. Pour aller plus loin sur cette thématique, nous sommes en liaison à Brest avec Sébastien Gallet, enseignant-chercheur en écologie et en ingénierie écologique à l'Université de Bretagne occidentale à Brest au sein du laboratoire Géo-Architecture. Sébastien Gallet, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, comment réagissez-vous au reportage que l'on vient d'entendre ?
Alors, c'est vrai que ce reportage sur le LOC illustre assez bien en fait, la thématique et je pense que Romain Bazir présente bien à la fois les enjeux, puis aussi les difficultés, tous les questionnements qui se posent autour de ce type de projet. Donc je dirais, voilà, c'est une bonne illustration d'un des cas que l'on rencontre sur ce sujet de la dépolarisation, la restauration des milieux, des marais littoraux.
Alors, on l'a entendu, la question fait parfois débat, mais pour vous, quelle est la raison d'être de tels projets de reconnexion de marais littoraux au côté maritime pour la biodiversité ? Quels sont les avantages pour la biodiversité que ça peut représenter ?
Les avantages, ils sont nets, hein, c'est-à-dire qu'on a sur l'ensemble du littoral un certain nombre de territoires qui, depuis des décennies, parfois des siècles, ont été soustraits à l'influence de la mer. Et donc, tous les écosystèmes présents sur ces sites sont de fait détruits parce qu'il n'y a plus l'influence de la mer. Donc souvent, ils ont été remplacés par des systèmes agricoles. Alors, ouais. Il y a les très grands exemples, hein, comme la baie du Mont-Saint-Michel. Hein, l'ensemble de la baie est dans ce cadre-là. On a aussi d'autres exemples en baie de Somme, etc. Donc, on a une partie de ce qu'on appelle les polders qui, notamment dans le cas des petits polders, n'ont plus leurs usages agricoles ou très peu. Et pour répondre à un certain nombre d'enjeux, il y a une politique, enfin en tout cas une dynamique de restauration de ces milieux, notamment parce qu'ils coûtent cher à entretenir également. Et là, on retrouve, on en reparlera, mais assez rapidement, ces milieux littoraux, ces marais littoraux, qui présentent une biodiversité spécifique, qui jouent un grand nombre de rôles et qui remplissent un certain nombre de services écosystémiques qui étaient absents de ce fait. Donc, le gain en termes de biodiversité est très net sur la restauration de ces milieux aux enjeux majeurs, tant de biodiversité que de changements globaux. Il y a un grand nombre d'enjeux auxquels répondent ces milieux. Donc, voilà, l'intérêt, il est net, en tout cas, quand on est sur des systèmes à forte pression agricole, comme ça peut être le cas sur certains polders.
Ce qu'il faut préciser, puisqu'on parle de reconnexion à la mer, c'est que ces marais, avant d'être déconnectés, ne l'étaient pas. Ils étaient à l'origine dans l'espace maritime, c'est bien ça ?
Oui, ce sont donc des marais littoraux sur lesquels on a construit des digues, ou mis des obstacles en tout cas à la mer, qui fait que ça les a déconnectés. Et très rapidement, la salinité diminue. On a des milieux qui sont assez riches et qui sont transformés en espace agricole, prairial ou de culture. Donc ce sont bien d'anciens marais qui retrouvent leur fonctionnement plus ou moins naturel.
Alors le fait de vouloir retrouver ce fonctionnement lié à la mer, est-ce que c'est accéléré aujourd'hui aussi par les effets du réchauffement climatique ? Est-ce que c'est une tendance qui s'accélère du fait de ce contexte de réchauffement climatique qu'on connaît aujourd'hui en Bretagne, en France et dans le monde entier ?
Alors, en tout cas, changement climatique, mais en tout cas, ça rentre dans ce qu'on appelle les politiques d'adaptation au changement climatique. Étant donné, alors, il y a plusieurs facteurs, hein, c'est que l'élévation potentielle ou visible du niveau de la mer pose, d'une part, la question de l'entretien des digues. Donc, il y a un certain nombre de digues qui protègent les habitations, etc. Donc, il n'y a pas de souci, il y a une obligation de les entretenir. Mais pour toutes les autres, se pose la question de la nécessité de mettre des moyens parfois très importants pour entretenir ces digues. Et puis aussi, on sait aujourd'hui que ces marais littoraux, comme je dirais la mangrove en milieu tropical, jouent un rôle de protection du littoral tout aussi efficace, voire plus efficace que ces digues en béton ou en terre, en atténuant la force des courants, donc en protégeant le littoral. Donc, il y a ce facteur, en tout cas, de nécessité d'adaptation au changement climatique qui incite, en tout cas, à la réflexion sur la restauration de ces milieux avec des coûts d'entretien des digues importants, des usages qu'avaient ces polders qui souvent n'existent plus ou qui sont en déclin. Donc, effectivement, il y a tout un contexte qui est favorable au développement de ce type de projet, d'où l'intérêt de les étudier et de tirer en fait des leçons de ce qui se fait ou ce qui est en train de se faire.
On retient que cette reconnexion à la mer, en tout cas, peut rendre beaucoup plus résilient, finalement, le milieu par rapport aux effets du changement climatique. Pour autant, est-ce que c'est pas dommage, et c'est la crainte exprimée à Guidel, sur ce log de Guidel notamment, mais peut-être aussi ailleurs, de voir une biodiversité qui est installée depuis longtemps, celle déconnectée à la mer, et se voir finalement radicalement modifiée par cette reconnexion des marais à la mer. On remplace une biodiversité par une autre, en gros, quoi.
Alors, c'est vrai que le site du Loc à Guidel est assez emblématique de cet aspect. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de ces polders, je dirais, sur lesquels on avait une végétation banale, voire, encore une fois, des cultures. Hein, et donc là, la question du gain ne se pose pas tellement. Quand on passe d'un champ de maïs, comme c'est le cas d'un site qu'on étudie à côté de La Rochelle, à des marais littoraux, je dirais, là, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de sites sur lesquels se sont développées des végétations parfois spécifiques, parfois des habitats très intéressants, qui d'ailleurs ont fait même l'objet de mesures de protection, de gestion. Mais voilà, il y a des enjeux parfois contradictoires. Sur le cas du Loc, alors on n'en a pas parlé, mais il y a un enjeu de continuité écologique, hein, c'est-à-dire que ces polders ils constituent une barrière pour un certain nombre d'espèces, qui notamment passent de la mer aux rivières, donc là, ils ne peuvent pas passer. Il y a des enjeux sur ces aspects-là, avec des obligations de rétablissement des continuités écologiques, et donc on a parfois des enjeux qui s'opposent. On va avoir un gain, une perte, et il appartient à chaque fois de faire la balance entre les deux. Quels sont les enjeux majeurs, quel enjeu l'emporte sur l'autre. Et ça, c'est vraiment une question de choix, mais en écologie, en gestion des écosystèmes, on est toujours confronté à ce choix. On est toujours à faire de choix, on va favoriser un type d'écosystème par rapport à un autre. Et c'est vrai que dans le cas des étendues Loc, on a effectivement une végétation en place dont on sait qu'elle va être modifiée. Elle va être remplacée par une végétation qui présente d'autres intérêts écologiques. Et je dirais qu'il y a un choix, alors je vais dire peut-être un choix politique, un choix de gestion, de conservation qui doit être fait.
Auquel s'opposent souvent aussi des conflits d'usage. C'est un petit peu le cas sur le Loc de Guidel. Il y a toute tout ce qui est fédération, peut-être de chasseurs, de pêche, qui peuvent aussi voir les choses un petit peu d'un mauvais œil, quoi, en fait, au départ, en tout cas, si la pédagogie n'est pas au rendez-vous sur de tels projets.
Alors, il peut y avoir des conflits. Alors, c'est vrai que dans le cas du Loc, c'est la Fédération des chasseurs qui est le gestionnaire du site. Donc, ils sont à cœur. Voilà, ils sont bien. Après, il y a des enjeux parce que c'est des enjeux d'usage, des enjeux aussi d'habitude. Hein. On a une modification forte des paysages et on sait que ça crée toujours des inquiétudes dès qu'on transforme le territoire. Il peut y avoir des enjeux parfois qui se grèvent, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le projet en lui-même sur certains sites. Donc, obligatoirement, on a une modification. Il peut y avoir des inquiétudes, il faut expliquer, pas seulement expliquer, on peut avoir des démarches d'associer à la réflexion. On sait très bien, il y a des sites sur lesquels il y a des très gros dispositifs de concertation qui ont été mis en place et qu'au bout du compte, il y aura toujours des oppositions, et c'est humain, et c'est normal, on transforme le territoire. Il y a des usages qui vont apparaître, d'autres usages qui vont disparaître. Et ça, les opérations de restauration écologique, en fait, leur acceptation, en tout cas la représentation qu'en ont les riverains, est souvent plutôt liée aux modifications, aux conséquences que ça a sur leurs usages, sur leurs habitudes. Et ça a été plutôt bien montré par mes collègues sociologues dans le cadre de nos programmes de recherche sur d'autres sites.
Dont la modification du paysage pour un riverain, par exemple, quoi.
Tout à fait. Et avec notamment des phases au moment de la transformation qui sont, j'emploierais le terme de violent, hein, c'est-à-dire que on a des sites où on passe d'une jolie prairie et puis la mer revient et pendant un an, deux ans, tout va mourir, hein, tout va être désertique. Mes collègues parlent d'une phase, une phase noire, morte. Et puis après, le nouveau milieu va s'installer et on va retrouver des paysages parfois magnifiques. Des champs de salicornes qui vont être multicolores à l'automne, puis le rétablissement du shore. Mais ça prend un petit peu de temps. Et il y a cette phase de transition qui peut, et on le comprend, mal vécue par des riverains ou par des usagers.
Ça prend combien de temps, généralement? Enfin, j'imagine que chaque site est différent, mais Il faut parler de quoi ? De 2 ans, de 4 ans pour que d'une biodiversité établie à une biodiversité retrouvée par une reconnexion maritime, on retrouve une autre biodiversité plus naturelle. Ça met quoi ? 2 ans, 4 ans, généralement ?
Alors, globalement, oui, c'est assez rapide, en fait. On a même, nous, on est même surpris hein, par la rapidité des processus. Effectivement, on a plusieurs sites que l'on suit. Au bout de 4 ans, on a retrouvé, au moins d'un point de vue, je dirais, aspect général et structure du milieu, un milieu qui paraît assez typique hein, du marais salé. Alors, parfois, on se rend compte qu'on analyse un peu plus finement qu'il y a un certain nombre de composants du milieu qui mettent plus de temps à revenir. Parfois, c'est très long, hein, ouais. Mais ça va dépendre de l'organisation du site, d'un type de reconnexion. Mais globalement, oui, là, le milieu en général, en quelques années, retrouve un aspect, une structure classique de marais salé.
Est-ce qu'il y a un facteur risque de la réussite de tel projet en termes plutôt de réussite technique? Est-ce qu'on peut avoir des exemples peut-être de non-réussite de cette reconnexion des marais littoraux à la mer? Ou est-ce que ça n'existe pas, ça se fait de toute façon?
Bah, globalement, dans tous les sites qu'on suit, il n'y a pas vraiment d'échec, on va dire. Il peut y en avoir quand on maintient en fait un peu trop un contrôle du milieu, c'est-à-dire que on a d'autres sites qu'on suit, mais sur lesquels on n'a pas encore une vision à long terme, où il y a quand même un contrôle via des vannes, des entrées d'eau marines, on va dire. Quand la circulation de l'eau se fait de façon, je dirais, sans obstacle, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Il peut y avoir après des effets de seuil, hein, quand il y a une différence de niveau, au niveau topographique, quand, encore une fois, des ouvrages sont maintenus avec des systèmes de vannes qu'on modifie pour favoriser l'eau de mer, mais globalement, ça se fait de moins en moins, en tout cas, c'est l'impression qu'on en a. Et si on laisse le système, l'eau circuler, en gros, il n'y a pas de problème. C'est des milieux, c'est pour ça qu'on les qualifie de résilients, hein, c'est-à-dire qu'ils ont une très bonne capacité à s'auto-régénérer une fois que les conditions sont favorables.
Quand on parle de réussite, et c'est le cas le plus souvent, on assiste donc bien à véritablement des avantages pour la biodiversité, donc la faune, la flore et la qualité de l'eau aussi.
Sur la qualité de l'eau, alors ça c'est quelque chose qu'on suppose, hein, qu'on n'a pas nous étudié précisément, mais effectivement ces milieux peuvent jouer un rôle de tampon entre des eaux qui arrivent des bassins versants, qui sont parfois des bassins versants un petit peu agricoles, un petit peu enrichis, et donc vont jouer un rôle tampon par rapport aux masses d'eau marines. Donc c'est un peu théorique, ça a été, je pense, montré dans d'autres études. Nous, on ne l'a pas analysé spécifiquement, mais potentiellement, oui, on a un double effet, hein, protection du littoral contre la mer, contre la force de la mer, et protection de la mer contre les éventuelles pollutions qui viennent du bassin versant, en faisant attention à ne pas considérer ces milieux restaurés ou non restaurés comme une solution aux pollutions des bassins agricoles. Voilà, c'est un dernier filtre, mais ça n'empêche pas d'avoir toutes les actions nécessaires au-dessus pour éviter que ces milieux, parce qu'ils sont aussi modifiés, hein, juste un instant, on sait qu'en baie du Mont-Saint-Michel, on a une altération justement de la biodiversité sur ces milieux de marais littoraux, dans la partie non poldérisée, parce qu'il y a des apports de nitrates qui viennent du bassin versant et qui modifient les équilibres entre les espèces.
Ouais, donc là, on ne peut plus rien faire, le dernier filtre ne peut plus réellement agir. Effectivement.
Il faut agir en amont pour restaurer la qualité de l'eau qui arrive sur le site.
Bien sûr, c'est un tout entre l'amont et l'aval. Pourriez-vous nous citer peut-être des exemples en Bretagne ou en France de tels projets qui ont bien réussi et qui ont permis vraiment de renforcer localement cette biodiversité? Est-ce que vous avez des exemples en tête de projets
Alors, des exemples, il y a pas mal de projets, de petits projets de restauration de petits polders, hein, qu'on a suivis, et globalement à chaque fois ils sont favorables. Alors parfois c'est très presque anecdotique, en tout cas ça se voit pas parce que c'est quelques hectares au sein par exemple de l'estuaire du Lillet, dans le nord de la Bretagne. Alors il y a quand même un cas qui est relativement emblématique, hein, c'est celui de la Berre en Crozon, donc tout le marais qui est derrière la plage de la Berre, hein, à côté de Morgat, qui a été partiellement dépoldérisée en 1981, de mémoire. Donc c'est la première opération de restauration par dépoldérisation qui a été menée par le conservateur du littoral, était tout jeune à l'époque. Et aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'au bout de la pointe sableuse, il y avait une digue. Et derrière, alors on a un milieu qui est très dynamique, tout n'est pas résolu, mais on a toute une mosaïque de milieux avec une biodiversité qui accueille des oiseaux, notamment, à la fois dans les différents milieux. Et donc là, on a un bon exemple de ce que ça peut donner 40 ans plus tard.
Alors, au-delà de cet entretien, Sébastien Gallet, pourriez-vous peut-être nous indiquer des références, des sites, Internet peut-être, ou ouvrages, pour que nos auditeurs, au-delà de cet entretien, puissent plonger encore plus dans cette thématique et surtout mieux comprendre ces enjeux qui sont parfois difficiles à comprendre localement?
Alors, des ouvrages, j'en citerai pas, j'en vois pas obligatoirement de ouvrages grand public, ou même après, on a des publications scientifiques, donc assez pointues sur un sujet. En revanche, vient de sortir, il y a quelques semaines, un numéro spécial d'une revue qui s'appelle « Sciences, Eau et Territoire », qui est une revue qui est à la fois scientifique, mais qui s'adresse aussi aux gestionnaires d'espaces naturels, donc qui aborde les aspects de façon assez transversale et assez ouverte. Et il y a un numéro spécial qui est sorti sur la restauration des petits marais littoraux, qui est sorti il y a quelques semaines. Et l'avantage, c'est que c'est une revue qui est disponible gratuitement en ligne, donc sur le site de la revue, hein, Sciences, Eau et Territoire. Et c'est un numéro qui fait suite à un colloque que nous avons organisé fin 2021 à Brest sur cette thématique. Et donc, il y a plusieurs approches qui sont abordées. Ça donne une bonne vision de ces milieux. Il y avait eu d'ailleurs dans cette même revue un autre numéro en 2017, également sur une problématique assez proche. Donc, on y retrouve des approches sociologiques, historiques, écologiques, des exemples. Donc, ça peut être une bonne entrée pour aborder le sujet.
Eh bien, en tout cas, merci d'avoir rendu simple ce qui peut paraître d'un premier abord compliqué comme thématique, comme celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Sébastien Gallet.
Eh bien, merci à vous d'aborder ce sujet sur des milieux qui sont assez mal connus, en fait, et qui méritent d'être mis en lumière, en tout cas.
Voilà, merci à vous. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en écologie et en ingénierie écologique à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Merci également à Vincent Leyoc de Radio U, votre radio associative brestoise, pour l'établissement de ce duplex. Tous les épisodes de l'émission Biodiversité en air sont disponibles en podcast ou en balado-diffusion sur le site corlab.org. À bientôt donc pour un nouvel épisode de notre magazine dédié aux actions en faveur de la biodiversité en Bretagne. Et d'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.